tous et à toutes, et bienvenue au podcast de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie d'ATH.
Bonjour, bonsoir les auditeurs et tyrans.
Bah oui, bonsoir, et encore une fois, tu seras tout seul cette semaine. Mordren sera de retour de vacances la semaine prochaine. Toi, il y a des choses à faire en ce moment. Mais malheureusement, le podcast 300, parce qu'il faut qu'on finisse par aborder le sujet, hein, ça nous a pas échappé, rassurez-vous, oui, le podcast 300, c'est pour bientôt. Enfin, bientôt, pas tout de suite, pourquoi? Parce que certes, Mordren rentre de vacances la semaine prochaine, mais moi, il se trouve que je me barre en vacances. Et vous êtes gentil, je vous aime beaucoup, mais il faut que je me repose, voilà. Donc, il n'y aura pas de podcast 300 avant la fin du mois de mai. Voilà, ça c'est dit, hein, je me barre en vacances jusqu'au 13 mai. J'ai bien l'intention d'en profiter, n'est-ce pas? Par contre, il y a une chose dont on doit discuter, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour ce podcast 300? Bah écoutez, on va faire dans le classique, hein, rien de très original. On a l'intention de faire un direct. On vous communiquera les dates précises pour le direct sur le site, mais aussi sur Twitter, bien évidemment. Une autre précision également. Je vous en ai pas parlé ces derniers temps, mais il se trouve que potentiellement, je vais bientôt être propriétaire, n'est-ce pas ? Propriétaire dans le Note 3, hélas, mais bon, écoutez, on fait avec ce qu'on peut. Hein.
Bah, en même temps, t'es plus près de ton terrain pour le trafic de drogue, c'est sûr que...
C'est ça, exactement. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'après tout, vous en avez rien à foutre de ma vie. Il se trouve que l'appartement que je convoite, bah, il a mangé de la fibre, vous voyez. Et il a tellement bien mangé de la fibre que peut-être qu'on fera des lives en direct plus souvent. Et ça vous intéresse également, parce que bien évidemment, quand je vais déménager... Bah, il y aura pas de podcast, hein, c'est sûr. Après, je ne sais malheureusement pas quand ça se fera. Hélas, j'aimerais bien. La signature, c'est pour bientôt, mais bientôt, avec les notaires, ça peut durer longtemps. Hein, c'est un peu comme Valve. C'est en Valve time, voilà. Bon, on va commencer, mon cher ATH, avec les news de cette semaine. Nous allons donc vous parler d'un nouveau jeu d'anciens de chez Rare. On évoquera The Witcher 3 qui va accueillir des outils de modding. Nous évoquerons également du gameplay pour Plague Tale Innocence qui sort bientôt. On parlera de Rainbow Six Siege et des pratiques d'Ubisoft pour faire bosser les gens gratuitement. On enchaînera ensuite sur Sony, qui n'aime pas les nichons, mais les flingues, oui. Et enfin, on terminera par le connard de la semaine, Suspense.
En même temps, si vous avez suivi un peu l'actualité cette semaine, vous devrez savoir de quoi on va parler, mais c'est pas très dur. Hein.
Voilà, c'est ça. En plus, connaissant la structure de nos podcasts, hein, vous vous doutez très fortement de quoi on va parler. Hein. Bon, on va commencer par un jeu d'ancien de chez Rare. Alors, quand on dit ancien de chez Rare, on parle de qui exactement? Il y a l'artiste de Donkey Kong 64, Richard Vaucher, le compositeur de Donkey Kong Country, David Wise, le fameux. Il y a aussi également Graham Norgate, qui apparemment a bossé sur la bande-son de Timesplitter, ce qui est une belle référence. Bon, maintenant, oui, pourquoi pas, c'est des noms comme ça qu'on te sort. Maintenant, parlons du jeu, mon cher ATH. Soyons francs. Est-ce que c'est pas, un peu moche, deux, sans imagination, trois, on dirait... un jeu Nintendo 64 sur Unreal Engine, en fait. Mais je parle vraiment en termes de gameplay, là. Déjà, le jeu, il a des airs de Jet Force Gemini, en termes de gameplay. C'est-à-dire qu'ils ont filé un flingue à un petit singe tout mimi qui se bat contre des ennemis qui ressemblent à ce Jet Force Gemini. Mais en plus, les mécaniques, elles ont l'air datées, mais...
En fait, la vraie question, c'est de savoir si ce jeu, il a pas 20 ans de retard, tout simplement.
Bah, c'est un peu ça. T'as l'impression qu'on, les gars, là, on les a un peu sortis du frigo, qu'ils ont pas joué à des jeux ces dernières années, qui te refont un jeu Nintendo 64 avec les outils d'aujourd'hui, quoi.
Voilà, en fait, c'est un jeu Nintendo 64 sans le brouillard de l'époque, mais bon, déjà, on va commencer par la partie qui me choque le plus, moi, c'est la partie graphisme et artistique. T'as un univers qui est pseudo-réaliste avec des forêts, des choses qu'on a dans la vie de tous les jours, mm-hmm. et qui sont modélisées, on va dire, de manière photoréaliste.
Photoréaliste à l'arrache, hein,
oui,
quand
non,
même.
Mais j'insiste. Quand on dit photoréaliste, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des trucs qui se rapprochent de la réalité, mais ça veut pas dire que ça ressemble à une photo, quoi.
Parce que quand tu sais, on dit photoréaliste, t'as l'impression qu'on parle d'un truc qui rend fidèlement la réalité. Non, c'est juste que ça a un rendu, tu vois.
Ouais.
Mais c'est parfaitement dégueulasse, sinon, à part ça. Hein.
Mais là, le problème, c'est qu'on a des environnements qui sont naturels et qu'on connaît, nous, dans la vie de tous les jours. mais à côté t'as un petit singe multicolore avec un flingue qui se bat contre des fourmis géantes et qui rappelle donc énormément Jet Force Gemini parce que c'était le principe du jeu, tu affrontais des fourmis dans d'autres planètes quoi qui avaient des flingues aussi, donc je comprends très bien pourquoi les gens ont pensé à ça directement. D'ailleurs moi la première chose que je t'ai dit en voyant ça, je me suis dit eh mais ça me rappelle ce jeu. Et voilà, en fait j'ai pas envie d'être méchant avec le jeu, mais franchement ça donne pas envie du tout quoi.
Ouais, mais en fait c'est un jeu, il y aurait pas les noms là dont on vous a parlé, tout le monde s'en foutrait.
Ouais, c'est
mais
ça,
sérieusement quoi, je connais des jeux indépendants en accès anticipé dont personne n'a parlé qui ont plus de gueule que ça quoi.
Ouais, et puis même des jeux qui sont sortis qui ont plus de gueule que ça. Par exemple, on en parlait avant d'enregistrer le podcast, on parlait de At It Time qui a une direction artistique beaucoup plus cohérente que celle qu'on voit sur ce jeu. Puis même en termes de gameplay, t'as pas l'impression d'avoir des mécaniques vieillottes. Là, t'as l'impression que le jeu en fait il reprend le concept de Mario 64. Vous étiez dans un château et vous rentrez dans les tableaux pour accéder à différents niveaux. Bah là, t'as l'impression que c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pas un château, c'est un hub un peu plus ouvert, mais tu rentres dans un portail qui t'amène dans un niveau, et tu dois faire ton objectif, et voilà. J'ai l'impression, en fait, que les indés ont mieux compris ce que c'était le jeu de plateforme que les mecs qui l'ont fait à l'époque, en fait.
Mais c'est exactement ça, le problème que j'ai avec ce projet, ou même, d'une manière générale, les projets d'anciens de chez Rare. C'est-à-dire que, à chaque fois, on met ces projets en avant, parce que Rare, ça a été un studio extraordinaire sur la Super Nintendo, ou même sur la Nintendo 64. Sauf que Rare, ça fait des années, qu'ils ont pas produit quelque chose d'extraordinaire, on va pas se le cacher. Mais en plus, je sais pas moi, regarder Yooka-Laylee ou même encore ce projet-là, franchement, ça fait pas envie, quoi.
Et puis, il faut pas oublier que il y avait aussi le savoir-faire Nintendo, donc GoldenEye, quand il était sorti, tout le monde se palichait dessus. Rien que déjà les animations, quand tu tirais sur les jambes d'un personnage et tout, les dégâts étaient vraiment localisés, donc tu vois, il y avait ce genre de petits détails. Et puis après, quand ils ont été rachetés par Microsoft, ils ont fait des petits jeux sympas, mais c'était pas la même aura qu'à l'époque, quoi.
Bon, ATH, je te propose qu'on enchaîne maintenant sur The Witcher 3, qui va avoir droit, enfin, à des outils de modding. Alors, retour sur les événements du passé. Il y a fort longtemps, une éternité, à la sortie de The Witcher 3, on vous parlait du news où les fans de The Witcher gueulaient, parce qu'il se trouve que CD Projekt avait promis des outils de modding digne de son nom sur The Witcher 3, et finalement on s'est retrouvé avec un mod kit tout pourri qui permet de faire pas grand chose, en tout cas certainement pas ce que certains arrivent à faire sur Skyrim par exemple, et du coup la communauté du modding était très très déçue. Bon, retour dans le présent, nous avons un fan qui en a plein le cul d'avoir des outils de modding pas adaptés. Il a mis en place un outil que je vous mettrai en lien dans le récapitulatif du podcast, qui va permettre en gros de créer ses propres quêtes, tout simplement. Ce qui quand même est super cool. Alors maintenant, attention, warning, ce n'est pas un outil aussi user-friendly que celui de Bethesda, mais c'est quand même un progrès très notable, parce que jusqu'à maintenant, il faut dire ce qui est, avec l'outil de CD Projekt, on pouvait pas faire grand-chose avec, hein, à part changer des textures, voilà, bon, c'était pas la folie. Donc écoutez, respect à lui, n'est-ce pas ? On attend de voir ce que les autres fans vont pouvoir faire avec tout ça. Voilà.
Enfin moi j'attends pas vraiment parce que The Witcher 3, j'ai déjà fait le jeu de base qui est très long plus les deux DLC, donc voilà, tu vois, j'ai passé quand même je sais pas combien d'heures dessus, mais c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Par contre, c'est super que le mec, parce que ça c'est des gens qui aiment tellement le jeu, qui ont envie de rester dans cet univers. Il y a la comparaison avec les jeux Bethesda où les outils de modding sont disponibles dès le départ. Parce que les jeux Bethesda, t'as besoin d'avoir des mods pour t'amuser sur le jeu, alors que The Witcher 3, tu peux t'amuser avec le jeu de base, quoi. Non, là, c'était juste un petit tacle envers les jeux Bethesda, mais...
Oh non, non, pour moi, c'est pas un petit tacle, c'est la réalité. À une époque, je t'aurais dit sur Morrowind, par exemple, que ce n'était pas vrai, tu vois, mais pour moi, sur les jeux récents, si, je suis totalement dans cette optique-là, quoi.
Voilà. Quand je parle des jeux Bethesda, je parle vraiment des RPG comme Fallout et The Elder Scrolls, quoi.
Alors, je rappelle quand même au passage que avec ce genre d'outils, on peut créer aussi ses propres jeux en quelque sorte. Hein. Bon, malheureusement, il est sorti un peu tard dans le cycle de vie du jeu pour qu'une vraie communauté, tu sais, qui se crée autour, qui génère des projets aussi ambitieux que ceux qu'on peut voir, par exemple sur Skyrim, où t'as vraiment des jeux à part entière qui ont été créés à partir des outils de Bethesda.
Ouais.
Mais en tout cas, bravo à... Putain, mais c'est quoi ces pseudos à coucher dehors, ça? Par contre, sérieux, quoi, les mecs. Alors, R-M-E-M-R, voilà. Merci, mec, pour ton pseudo imprononçable, mais en tout cas, bravo à toi, voilà.
De toute façon, je pense pas qu'il nous écoute, donc si tu veux l'insulter, tu peux l'insulter pour son pseudo.
Fuck you, bitch. Allez, On va maintenant enchaîner sur un jeu que j'attends beaucoup, qui va sortir là incessamment sous peu, c'est le 14 mai, il me semble. C'est Plague Tale Innocence. On a une nouvelle vidéo de gameplay qui est sortie. Bon, on voulait juste vous parler de cette news pour dire que bon, on a la confirmation, hein. D'un point de vue gameplay, ça sera pas le plus grand jeu de l'univers, c'est clair. C'est de l'infiltration très très light, avec le hadibou du puzzle, si tu veux. Mais par contre, en termes d'ambiance, ça a l'air toujours d'autant tué. Et puis moi, personnellement, maintenant que j'ai fini Sekiro, j'ai envie de faire beaucoup de jeux détente, on va dire, où je vais pouvoir profiter tranquillement de l'expérience que le jeu a proposé. Donc, personnellement, je suis pour. Voilà.
Il faut surtout insister sur le fait que c'est Focus qui édite le jeu. Mm-hmm. Faut pas s'attendre à un triple A en termes visuels.
Bah, visuellement, quand même, c'est pas mal, si je puis
non,
me
permettre. Non, mais...
Ça déchire quand même un peu la rétine,
c'est,
quand même.
C'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas un jeu qui a un énorme budget, quand tu le compares à des jeux comme Assassin's Creed, par exemple. Par contre, avec les effets de lumière, le rendu du moteur, je trouve que c'est très joli. Et il y a aussi un truc qui est très intéressant dans ce jeu-là, je trouve, c'est que d'habitude, dans les jeux vidéo, les rats, c'est toujours les ennemis que tu affrontes la première quête dans les RPG, souvent. Et là, ça a l'air d'être une menace qui va être en fond, du début à la fin du jeu, bah je trouve ça intéressant parce que d'habitude c'est un ennemi qu'on ignore, on calcule pas trop, personne te dit oui putain hier j'ai affronté un rat dans un donjon, tu vois, on va te dire j'ai affronté un dragon, un orc, et là le fait que ça soit lui l'élément central de gameplay, bah je trouve ça vraiment intéressant.
Bah ouais, ce que je trouve intéressant c'est le fait qu'il joue sur la peur naturelle qu'on a de ces bestioles, quoi. Enfin moi, tu me montres un rat, je fais un bond de 10 mètres, tu vois, enfin j'ai horreur de ces trucs là alors que j'ai pas cette phobie des araignées par exemple, tu vois. Ils ont bien capté le côté maladie, truc qui bouffe n'importe quoi, tu vois, qui crée un rejet naturel chez les gens, quoi, en fait.
Ouais. Et puis aussi ce qui est cool c'est que bah là ça va être une femme qu'on va jouer, qui est pas une combattante expérimentée non plus.
Plus qu'une femme, une gamine. C'est ça qui est intéressant, parce que des femmes, on en a joué dans jeux vidéo, mais des gamines comme ça, pas beaucoup.
Voilà, c'est pas un personnage qui a l'air d'avoir des pouvoirs. Dans Horizon Zero Dawn, tu joues une femme, mais la meuf, elle est ultra vénère. Dans Tomb Raider, tu joues Lara Croft, qui est une femme qui sait se débrouiller. Les rats ont l'air d'avoir peur de la lumière et ce genre de choses-là, et donc tu te dis comment ça va être implémenté, est-ce que les puzzles vont être bons.
Ça, je t'avoue, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que ça devienne redondant au bout d'un moment et qu'ils arrivent pas à se renouveler sur les mécaniques pour faire fuir les rats, parce qu'en gros, pour vous expliquer, il y a des rats partout. Te laisses approcher, ils vont bouffer, très clairement. Pour les faire fuir, il faut utiliser la lumière, parce qu'ils ont peur de la lumière. Donc ils déclinent tout un tas de puzzles sur ça. Et moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'au bout d'un moment, ça devienne hyper redondant et qu'on en ait un petit peu marre, quoi.
Je t'avoue que ça me fait un petit peu peur, surtout connaissant les productions Focus. Après, je me dis, est-ce que le propos va être intéressant ? Et je les attends plus, en fait, sur la partie histoire-exploration que sur la partie gameplay. Mais par contre, il y a quand même un truc qui est quand même assez chouette, c'est le moteur de collision avec les rats. C'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire, à générer le nombre de rats à l'écran et que le jeu tourne toujours aussi bien.
Et qu'il soit toujours aussi beau, quoi. Franchement, c'est pas non plus Red Dead, tu vois.
Non.
Mais c'est super joli, quoi. Honnêtement, vu tous les trucs qu'ils ont affichés à l'écran, moi je trouve que le rendu est hyper clean, quoi.
Ouais, exactement. Donc, c'est un jeu, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il y a certaines qualités que j'attends chez ce genre d'éditeur, et il y a certains défauts que malheureusement je connais qui sont pas toujours corrigés. Mais bon, je préfère donner sa chance à un jeu comme ça que de jouer à des jeux qui vont reprendre un univers avec un personnage ultra costaud qui va défourailler tout le monde. Là, au moins, il y a une proposition qui diffère, donc c'est déjà sympa, quoi.
Oui, voilà, c'est une époque qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, le Moyen-Âge, c'est un personnage principal qui a l'air intéressant, donc rien que pour ça, on est client.
C'est ça.
Allez, on va enchaîner maintenant sur Ubisoft, qui s'est dit que, bon, la QA, c'est un peu chiant. Donc du coup, on va mettre en place un programme sur Rainbow Six Siege qui va consister à payer les gens avec de la monnaie de singe pour qu'ils nous trouvent des bugs.
Ah, t'as pas dû spoiler qu'ils payent en monnaie de singe, parce qu'au début, je voulais le faire dans le déroulé où j'ai découvert cette news. J'ai vu Ubisoft récompenser les joueurs qui chassent les bugs. Et j'ai fait, mais c'est super, voilà Ubisoft, vous avez compris comment entretenir une communauté et récompenser les gens qui s'investissent. Et quand j'ai vu la récompense... J'ai dit, oh, mais en fait, c'était, vous auriez mieux fait de fermer vos gueules, quoi. La récompense, c'est un pendentif de jambes de raptor pour Frost. Donc, je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est un bug, apparemment, qui est récurrent dans Rainbow Six. Et il faut que tu, donc, trouves 3 bugs que les équipes d'Ubisoft corrigent pour avoir ce fameux pendentif. Et seul le premier à avoir donné l'information que tel bug peut être effectué va recevoir la récompense. et c'est tout, tu vois. C'est-à-dire que déjà, si tu trouves de bugs, bah t'auras rien. Mais en plus de ça, la récompense derrière, elle est nulle. Donc,
bon, en limite, tu vois, ils donneraient le truc à tous ceux qui ont rapporté le bug, parce que quand tu vois le truc, tu dis bon, voilà, c'est un truc cosmétique qui sert pas à grand chose. Mais là, honnêtement, quel intérêt? Bon, on va enchaîner sur Sony, qui commence à faire n'importe quoi. Peut-être que vous êtes au courant, ça fait plusieurs mois que Sony commence à censurer à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça a commencé par un mini-jeu dans une production japonaise où on devait caresser des jeunes filles pas très majeures. Donc là, à la limite, les gens s'en foutaient parce que c'était un jeu tellement obscur, tu vois, que bon, rien à foutre. Et personnellement, à la limite, ça me dérange même pas, tu vois. Je trouve ça tellement dérangeant, en plus, comme pratique, que bon, surtout si les filles sont pas majeures, il y a quand même un petit souci, quoi. Par contre, là où ça commence à me poser problème, c'est que ça dérivait de plus en plus au fil des mois. On a des jeux coquins comme Sera Kagura, par exemple, où t'as le producteur de la série qui s'est barré parce que, très clairement, à cause de la censure de Sony, il peut plus trop faire ce qu'il veut dans son jeu. Même si j'aime pas cette série, enfin, je sais pas, moi, si un jeu est coquin, so what, je vois pas où est le problème. Et ça arrive maintenant au stade où, dans Devil May Cry, on met un lens flare absolument dégueulasse pour cacher la raie du cul d'une nana, parce que, vous comprenez, la raie du cul d'une nana à poil, mon dieu, outrage, il faudrait surtout pas que des enfants voient ça. Hein, alors qu'ils peuvent voir ça sur n'importe quelle statue gréco-romaine, mais bon, voilà. Comprenez, le corps de la femme, c'est sale, il faut le cacher. Ou même de l'homme, d'ailleurs, parce que je suppose que s'il y a un sexe d'homme, évidemment, là, ça sera, oh mon dieu, cacher
ah bah,
ce sexe.
Ah, dans The Order, il y avait un zboob. Hein,
bon, voilà, c'est ridicule, mais c'est ridicule au point où ça commence à devenir plus que dérangeant, quoi. C'est-à-dire que maintenant, j'en suis au stade où je me dis, il va se passer quoi dans un jeu comme Cyberpunk, qui, connaissant CD Projekt, sera assez explicite si jamais il y a des scènes de cul, et on sait qu'il y en aura. Vous voyez, c'est le mauvais Sony, en fait. C'est le Sony dont je vous parle à chaque fois quand je dis que le Sony dominant, qui n'a pas de concurrent, est capable de faire n'importe quoi, bah voilà, c'est celui-là.
Alors, en fait, on va refaire un peu les choses dans l'ordre, si tu veux bien, Tyran. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des soupçons comme quoi Sony censurait ses jeux de plus en plus. Et donc, pour avoir une confirmation claire, la rédaction du Wall Street Journal a demandé à Sony si c'est vrai qu'ils avaient mis en place une censure. Par la suite, un porte-parole de chez Sony a répondu que, afin de préserver la jeunesse, on décidait de censurer. Mais il y a eu aussi, derrière ça, tout le mouvement avec le hashtag MeToo. Ils ont décidé de prendre l'initiative pour pas que leur image de marque ne soit rattachée à des contenus, on va dire, dégradants pour la femme. Sauf que déjà, premièrement, à quel moment c'est toi qui vas avoir l'image dégradante si c'est pas toi qui édite le jeu ni le développe, hein? Parce que quand il y a un mec qui veut faire un film, je suis désolé, ça va pas être le cinéma qui va prendre derrière. On va juger l'auteur pour ce qu'il a fait, l'œuvre pour ce qu'elle raconte, mais ça va être jamais, tu vois, la plateforme sur laquelle est distribué le produit. Pour moi, tant qu'ils respectent la loi, ils devraient être capables d'exprimer ce qu'ils ont envie. C'est pas à Sony de dire s'ils ont le droit de montrer des seins ou des fesses ou pas. C'est complètement con, en fait, comme logique.
Moi, enfin, que Sony veuille censurer les jeux, techniquement, légalement, il n'y a rien qui les empêche de le faire, tu vois. Donc, s'ils veulent le faire, très bien. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. J'achèterai pas votre prochaine console, il n'y a aucun souci. Maintenant, celui qui n'a pas le choix, c'est le développeur. Et le développeur, Sony n'est même pas foutu de lui dire ce qu'il accepte ou ce qu'il accepte pas.
Ouais.
Et ça, ça pose des problèmes pour les studios. Il n'y a pas de guidelines fournis par Sony. T'envoies un jeu à la certification chez Sony, et t'as aucune idée de comment le jeu il va revenir, quoi. T'as aucune idée de si on va dire, ah bah, finalement, vous savez, tous les trucs que vous avez développés, là, il va falloir les éditer. Et si ça se trouve, les trucs que tu vas devoir éditer, c'est pas un truc corrigé en 5 minutes. Ça se trouve, c'est des trucs qui vont drastiquement altérer le gameplay de ton jeu. Et du coup, qui vont redemander du développement derrière. Et ça, je suis désolé, Sony, c'est du foutage de gueule. Premier point. Ensuite, après, à un moment donné, faut arrêter de déconner. Nintendo est moins relou que Sony sur ces trucs-là. Vous vous rendez compte? Il y a des jeux qui ont été censurés chez Sony qui ne le sont pas chez Nintendo. Est-ce que vous voyez le truc qui débloque, là?
Et après, ça veut une image mature et Nintendo une image de gamin. Comme quoi, ça veut rien dire. Enfin, Déjà, revenons sur les développeurs si tu veux bien, parce qu'il y a un développeur japonais indépendant qui a répondu justement à l'article de Wall Street. Les directives de ces Sony ont des conséquences terribles. Par exemple, vous savez pas ce qu'ils vont dire une fois que vous envoyez le projet pour une évaluation. Ils peuvent très bien vous dire aujourd'hui oui, et la semaine d'après, ils vont dire non. Un degré de nudité qu'ils vont accepter un jour, demain, ça sera pas pareil. Et ça va poser un problème, parce que déjà, il faut demander à une équipe des ajustements, il faut travailler toutes les scènes et tout, donc c'est ultra galère. Mais en plus de ça, pour un studio indépendant, quelque chose qui est à prendre en compte, c'est quand même l'argent. Et là, ça devient très coûteux, selon ce même développeur indépendant. Donc, pour moi, il y a un problème éditorial. Voilà, c'est-à-dire un bout de sein, est-ce que je peux le mettre, d'accord, mais est-ce qu'un téton ça passe? Aujourd'hui oui, mais mardi non, donc c'est très compliqué déjà de suivre le rythme. Mais en plus de ça, ça pose aussi un problème en termes de joueurs et les gens qui créent ces jeux-là, parce que les mecs peuvent pas s'exprimer librement pour parler de quelque chose.
Bah, là où ça pose problème, in fine, c'est que les gens vont finir par s'auto-censurer. C'est-à-dire que déjà que le cul est un sujet tabou dans le jeu vidéo, alors si un des plus gros constructeurs décide de censurer les jeux comme ça, pour avoir du cul dans les jeux, excusez-moi, mais vous pouvez vous gratter, quoi. Et alors peut-être qu'il y en a qui trouveront que c'est pas une grosse perte. Moi personnellement, je suis désolé, enfin des gens qui baisent, c'est la base, quoi. Si vous enfin c'est voilà, vous êtes pas sorti de la cuisse de Jupiter, comme on dirait, hein. Il a fallu que pas maman et papa niquent ensemble pour qu'à un moment donné ça donne quelque chose, tu vois. Je trouve ça totalement idiot qu'on soit dans un média où le cul n'est pas accepté, alors que c'est parfaitement normal dans le cinéma, c'est parfaitement normal dans la littérature. Il n'y a que le jeu vidéo où t'as l'impression que, voilà, oh mon Dieu, cacher ce bout de sein que je ne saurais voir.
Mais,
voilà.
Déjà, en plus de ça, c'est même pas vraiment du cul, c'est de la nudité. C'est, pour moi, c'est déjà c'est deux choses différentes, parce que, tu vois, c'est pas des images pornographiques, hein. Qu'on soit bien clair, c'est une nudité.
Non, mais attends, on peut faire du cul sans faire de la pornographie. C'est des projets qui a du cul dans leur jeu, c'est pas de la pornographie.
Ouais, mais on va dire, voilà, et c'est des projets que si tu veux dans ces scènes-là, c'est déjà un peu plus érotique. Alors que là, la scène de DMC5, c'est juste vraiment de la nudité. C'est dur.
Oui, oui, non, mais t'as bien raison de me montrer que en plus ils sont extrêmes dans ce qu'ils font. Mais pour moi, si on était un média normal, avoir de l'érotisme dans les jeux, ça poserait pas de problème, tu vois.
Bien sûr.
Mais j'ai l'impression qu'on est encore dans ce paradigme où les jeux c'est pour les enfants et que comprenez. De toute façon, t'as bien lu l'argumentaire de Sony tout à l'heure. Il faut préserver nos jeunes têtes blondes. Il faudrait surtout pas qu'ils voient une nez à poil, quoi. Enfin, mon Dieu, quoi.
Quand on préparait ce podcast, je t'avais dit, non mais imagine, Silent Hill 2 serait sorti, je vais spoiler un petit peu, mais en même temps, c'est un jeu qui a plus de 20 ans maintenant, donc
Revenez dans une minute. Voilà, ce qui
va
pas
faire spoiler. Je vais juste spoiler la rencontre avec Pyramid Head. Donc c'est pas un spoil majeur non plus. Mais c'est-à-dire quand vous rencontrez cet ennemi-là, et il est en train de violer une paire de jambes sur pattes. Si c'est montré de cette manière-là, c'est pour te provoquer la peur déjà chez le joueur et aussi le dégoût, le rejet.
Et le malaise.
Voilà, le malaise qui est au cœur même du jeu Silent Hill. S'ils avaient fait ce jeu-là aujourd'hui, ça ressemblait à rien, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas qu'un jour Mario chez Nintendo pêche au Peach, il la foute à poil pour qu'on puisse passer à autre chose? Parce que là, voilà, d'un coup, ils ont dit bah non, en fait, nudité, non. Mais par contre, tuer des gens dans un aéroport dans Call of Duty, vous pouvez le faire, égorger des gens. Parce que je suis sûr que demain, si GTA 6 sort ou un jeu Rockstar comme ça, par exemple, dans GTA, on peut aller voir des prostituées, tout ça. Et si Rockstar décide d'implanter cette feature dans le jeu, est-ce que tu crois qu'ils vont se mettre en désaccord avec Rockstar? Parce que moi, je suis sûr qu'il y aura des studios qui auront des passe-droits et des autres qui n'auront pas, en fait.
Bah, de toute façon, c'est la méthode Sony, mon cher ATH. On l'a vu sur le cross-platform, ça sera la même chose ici. Parce que, en vrai, j'ai parlé de CD Projekt. Mais, très sincèrement, je ne crois pas une seule seconde que Sony aura les couilles de censurer un jeu comme Cyberpunk 2077. Ou alors, ils sont suicidaires. C'est une possibilité.
Déjà, dans un premier temps, expliquez-moi, Sony, à quoi sert le PEGI et le SEL? C'est-à-dire qu'il y a des recommandations, normalement, sur les boîtes. Donc, on va dire que le consommateur est censé savoir ce qu'il achète et être concerné par le contenu qu'il achète.
Oui, mais en plus, c'est au PEGI et au SEL de décider si un jeu est conforme ou pas à la loi, quoi.
Ouais.
C'est pas Sony.
Et juste
c'est
pour finir, une petite note d'humour, enfin, un petit peu. Moi, ce qui me fait marrer, c'est la différence entre Occident et Japon. C'est-à-dire que Sony a décidé de censurer la nudité dans ses jeux. Et au Japon, c'est Mortal Kombat qui en prend pour son grade parce que le jeu est trop violent. Donc tu vois, il y a vraiment une différence de culture selon les endroits du monde. Et c'est un petit peu bête. Il faudrait uniformiser tout ça et laisser les gens jouer à ce qu'ils veulent, quoi.
Bon, allez, on va terminer sur le connard de la semaine.
Le gros connard de la semaine.
Oui, le gros connard, le gros, gros, très, très gros connard de la semaine. Parce qu'il est d'autant plus gros, si vous voulez, qu'il est en train d'instaurer une pratique qui, à mon avis, est extrêmement dangereuse pour les développeurs, à savoir Epic. Bon, évidemment que c'est Epic. Vous voulez que je vous dise quoi? Ces derniers temps, Tim Sweeney fait le malin sur Twitter en prétendant que si Valve réduit la part qu'il prend sur les jeux qui sortent sur Steam, à ce moment-là, et puis qui arrêtera les excuses. Très bien. Donc les promesses n'engagent que ceux qui y croient, déjà. Juste petit rappel pour ça. Mais bon, après tout, pourquoi pas, c'est un coup de com' qui est bien, etc. Maintenant, Tim, s'il te plaît, faut qu'on discute là. Est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît, de te faire passer pour le chevalier blanc de l'industrie du jeu vidéo quand t'es même pas foutu de traiter tes employés correctement, en fait?
Ouais.
Voilà, parce que j'ai vu pas mal de gens relayer ce tweet pour faire la publicité de Team, etc. Très bien, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez, les gens, très bien.
Il a fait une belle com, on lui donne le point.
Moi, ce qui commence à me poser problème, c'est que derrière, pas mal de ces gens-là font comme si Epic était une boîte cool, alors que derrière, bah, ils traitent leurs employés comme de la merde. Parce que, donc nous avons eu, de l'autre côté, un article qui est sorti chez Polygon qui explique les conditions de travail des salariés d'Epic depuis que Fortnite a fait un carton. Ça ne vous aura pas échappé. Fortnite, c'est un jeu qui a des mises à jour hebdomadaires. Pour tenir la cadence de ce type de mise à jour, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu embauches beaucoup, 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 soit tu fais travailler tes salariés comme des esclaves. Spoiler alerte, ils n'ont pas choisi la solution numéro 1. Donc, cet article, qui franchement, et ça me peine de le dire, a des airs de déjà vu, nous explique que les salariés d'Epic sont traités comme de la chair fraîche, jetable à l'envi, que Epic embauche des contractants avec une fin de contrat qui est fixée. Et quand cette fin de contrat arrive, on leur dit « Alors, écoute, Coco, est-ce que t'as fait un nombre d'heures sup suffisante ou pas ?»« Ah non, t'en as fait que 50 ?»« Ah non, non, mais... excuse-moi, mais des feignasses comme ça, moi, j'en veux pas chez moi. Hein. » Non, non, mais franchement, 50 heures, voilà. Nous, c'est 70 minimum, mec. Enfin, voilà. En gros, si tu fais pas d'heures sup chez Epic, c'est même pas la peine d'espérer d'être réembauché chez eux. Je vous passe tous les détails absolument édifiants. Je veux dire, l'article est là pour ça. Mais... comme sur Anthème, des gens qui font dans l'arme. Comme sur Anthème, des gens qui font un burn-out et qui se cassent. Comme sur Anthème, de l'intimidation implicite, où certes, on te met pas un flingue sur la tête, mais bon, c'est tout comme, quoi. Malheureusement, ce n'est pas le premier studio à faire ça. Mais là où ça commence à me poser problème, c'est que Epic est un pionnier dans un nouveau domaine qui est celui du crunch sur le jeu à service, en fait. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, le crunch, au moins, tu vois, quand t'avais fini ton jeu, bon, ça y est, le crunch était fini jusqu'à la prochaine période de crunch quand on arrivera à la fin du développement du prochain jeu, quoi.
C'est ça.
Tu vois. Maintenant, le crunch, c'est tout le temps. Parce que, évidemment, dans le modèle formidable du jeu à service, il faut surtout pas que le consommateur puisse se lasser. Donc du coup, on va sortir des mises à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, on va exploiter ses salariés. Voilà.
Mais il faut pas oublier quelque chose aussi, c'est que il y a les mises à jour, très bien. Mais il y a aussi tous les correctifs de bugs qui sont ajustés. Il y a l'équilibrage du jeu. Et le problème, c'est que Fortnite, il est sorti sur PC, sur console, et sur smartphone aussi. Donc vous imaginez un petit peu le bordel à chaque fois quand vous devez faire un simple
pour
correctif.
Pour maintenir tout ça, quoi.
Après, il y a des développeurs qui disent avoir travaillé 7 jours sur 7, parfois avoir fait plus de 100 heures pour suivre ce rythme. Et voilà, quand tu es un corps humain et que tu n'es pas un robot, tu sais que au bout d'un moment, ton corps, il lâche, quoi. C'est-à-dire, travailler une semaine, tu peux peut-être le faire, mais tu peux pas le faire pendant un mois ou deux. Là, certains développeurs disent l'avoir fait pendant 4-5 mois de suite, ce qui est quand même quelque chose d'assez grave dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui. Surtout que, il faut pas oublier que c'est le jeu vidéo, c'est la plus grande industrie maintenant. C'est passé devant le cinéma. Oui. Quand tu vois ce genre de choses là, tu te dis mais non, mais les gars, vous êtes revenus au Moyen-Âge ou comment ça se passe? Les personnes en fait sont prises pour des Kleenex. Si t'as le malheur de parler, bah tu dégages, parce qu'il y a des gens qui ont posé des questions. Ils ont demandé à des managers de Fortnite comment allait-il gérer le crunch plus tard. Des gens ont dit que ces personnes-là ont tout simplement disparu de l'entreprise du jour au lendemain. Les gens qui sont en interne déjà chez Fortnite ont un gros problème, c'est-à-dire que, bah, vu que c'est un peu la valse des danseuses, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent et il y a des gens qui partent à chaque fois, bah, du jour au lendemain, tu es en sous-effectif, et puis d'un coup, ils te ramènent 50 nouvelles personnes, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il faut les former. Mmh. Et former 50 personnes comme ça d'un coup, alors que t'es déjà en période de crunch,
c'est pas vraiment possible de bien les former, quoi.
C'est ça. Donc, il y a plein de problèmes comme ça qui sont liés, en fait, au développement même de Fortnite. Voilà, c'est pas le seul, hein. T'as parlé de Anthem, mais il y a aussi eu le cas avec Red Dead Redemption.
Il y a récemment, en même temps que cette histoire, il y a eu le cas du studio derrière Mortal Kombat. Enfin, voilà. Mm. Malheureusement, on se rend de plus en plus compte, nous autres joueurs, que c'est une pratique très courante dans cette industrie. D'ailleurs, je voudrais répondre quelque chose, tu sais, aux éternels cyniques qui sont là à te dire, ah, mais les gens, écoutez, ça fait 30 ans que ça existe dans le monde du travail. Et alors, est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Est-ce qu'on n'a pas le droit de s'indigner face à des choses aussi scandaleuses? Quand même, ça fait 30 ans que ça existe, j'en ai rien à foutre que ça existe depuis 30 ans. Ce n'est pas acceptable, point. Et justement, il vaut mieux que les gens s'indignent, il vaut mieux que les gens gueulent plutôt que les gens ne fassent rien. Oh oui, mais ça fait 30 ans, donc on s'en bat les couilles. Non, voilà, mais c'est pas acceptable, point, c'est tout.
Ici,
zéro.
Je pense que la plupart des auditeurs qui ont déjà bossé, toi et moi, Tyran, avons déjà connu des périodes où, dans notre travail, on a eu des moments de crunch aussi, mais c'est jamais arrivé à ce point-là, déjà.
Rien de comparable à ça, faut pas déconner.
Rien
quoi.
De comparable à ça, et on sait très bien que ça arrive dans toutes les industries, dans tous les corps de métier, mais déjà, c'est pas une raison pour le valider, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Là, le problème, c'est que Fortnite, il est devant tout le monde, il est numéro 1. Pour les dépasser, mis à part si t'envoies une fusée, tu vois, ça va être très compliqué de les rattraper. Ils vont continuer sur ce rythme-là, à chaque fois sortir de nouvelles mises à jour, du nouveau contenu.
Et les autres vont essayer de les copier. C'est ça aussi qui pose problème, c'est que les autres éditeurs vont essayer de faire la même chose.
Mais du coup, eux, les joueurs qui sont pas au courant de l'industrie, parce que je suis pas sûr que des gamins de 12-13 ans ont entendu parler de cette histoire-là, s'ils traînent pas sur les sites de JV, ils veulent juste jouer à Fortnite, tu vois.
Pas que les gamins de 12-13 ans, hélas.
Oui, c'est vrai que la plupart du grand public, ils s'intéressent pas un peu aux médias du jeu vidéo, à ce qui se passe un peu derrière en coulisses. Ne sont pas au courant de cette histoire-là. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont là pour consommer le produit. Eux, ils sont contents d'avoir ce nouveau contenu qui arrive toutes les semaines et tout. Ils sont dit, oh, putain, c'est génial. T'as des nouveaux contenus qui arrivent comme ça continuellement. Donc du coup, c'est un jeu sans fin. Mais le problème, c'est que les équipes, tu peux pas épuiser tout le monde sans fin. Et un jour, je me demande s'ils vont pas arriver à un stade où ils pourront plus embaucher des mecs parce que plus personne voudra bosser chez eux. Si ça continue comme ça sur ce rythme-là, après, je suis toujours certain parce que les gens ont besoin de manger quand même. Il y aura toujours des gens qui vont accepter de faire ça le boulot.
Si tous les studios se mettent à faire comme Fortnite, parce que pour concurrencer un jeu comme ça, t'as pas le choix, faut adopter les méthodes du studio, quoi. T'auras pas tellement le choix, en fait. C'est ça le problème.
Ouais, c'est ce que d'ailleurs a répondu Respawn avec Apex Legends. En disant que eux, ils décident de sortir moins de contenu, mais justement ne pas avoir ces périodes de crunch. Donc après, ça, c'est ce qu'ils disent pour la communication, pour se montrer eux aussi, tirer la couverture vers eux et dire oui, mais nous, on respecte nos développeurs et tout ça. Donc pour l'instant, vu qu'il y a personne qui s'est plaint et tout, on leur donne le bénéfice du doute. Mais tu vois, je me dis qu'ils sont pas partis dans cette optique d'essayer de rattraper Fortnite, parce que Fortnite, c'est quand même une entreprise qui est monstre. Il y a des t-shirts, des mugs, enfin il y a tout et n'importe quoi sur Fortnite. Là en ce moment, ils ont un partenariat avec le film Avengers Endgame. Où ils ont rajouté Thanos dans le jeu, et du coup tu t'es dit à chaque fois qu'il y a un événement, Fortnite il est là, il est toujours partout, il est toujours mis en avant, qui a l'impression en fait ça va jamais finir jusqu'à ce que Fortnite soit mort quoi. Mais sinon, mis à part ça, voilà, c'est-à-dire que Fortnite, la seule solution que je vois pour le moment, c'est que le jeu, il a tellement lassé les joueurs que les joueurs sont passés à autre chose, il y a un autre type de jeu qui est arrivé, qui a fait le buzz, et du coup les gens se lassent de Fortnite au fur et à mesure, et du coup, ils délaissent un petit peu le jeu. Mais bon, je pense que ça va pas arriver d'ici un petit moment.
Je te rappelle que les gens ne se sont toujours pas lassés de LoL. Hein.
Ouais, non, mais oui. Après, par exemple, Call of Duty, c'était un mastodonte commercial qui arrivait tout le temps.
Ouais, mais Call of Duty, ce n'est pas un jeu à service.
Bien sûr.
Ces jeux-là sont conçus pour rendre captif un... Même dans leur mécanique, tu vois, ils sont conçus pour que les joueurs reviennent tout le temps, tu vois.
Ouais, bien sûr. Après, oui, c'est leur politique, hein. Le jeu, ils te vendent des skins, ils te vendent des trucs, en veux-tu, en voilà. Du coup, c'est normal qu'ils t'incitent à revenir. Même, je suis sûr que si tu te connectes pas pendant un mois ou deux, tu vas recevoir un petit mail. Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. Tenez, on vous offre des V-Bucks gratuits. C'est comme le dealer, tu vois, qui te donne ta première dose pour que tu reviennes le voir. Fortnite, c'est un petit peu le même principe. Sauf que, entre guillemets, ça te fait pas de mal à ta santé, mais ça te fait mal au portefeuille quand même. Et tu te dis, espacez vos mises à jour. Peut-être que, voilà, les mises à jour ne se font pas tous les mois, mais faites tous les deux mois. Mais ça permettra à vos équipes de respirer un petit peu.
Oui, non, mais mon cher ATH, tu oublies que nous parlons d'une boîte cotée en bourse qui doit rendre des comptes à des actionnaires qui veulent toujours plus, tu vois, parce que beaucoup d'argent s'est passé. Il faut tout l'argent. Et pour avoir tout l'argent, il n'y a pas tant de solutions, faut exploiter ses salariés, c'est tout.
Mais non, mais tu doubles l'effectif de ton équipe si tu veux sortir ta mise à jour deux fois plus vite.
Non, mais attends, tu te rends compte, ATH, payer tous ces salariés avec des horaires corrects et tout, mais tu réclames l'utopie là, mon cher.
Je réclame pas l'utopie, je réclame juste le respect de la vie humaine. C'est pas grand chose en soi, tu vois.
Ah, pour certains investisseurs, si, c'est beaucoup demandé, hein.
Je réclame juste qu'il devrait être normal, tu vois. Donc, normalement, j'aurais même pas le réclamer, en fait. C'est d'ailleurs, ça devrait être de base.
Ah, ouais, ouais. Malheureusement, on vit pas dans ce monde-là. C'est ça qui est le plus triste.
Ouais. Après, voilà. Je pense qu'on va pas faire trop rondondant avec ce qu'on a déjà dit, par rapport avec l'histoire de Rockstar, avec Anthem et tout. Mais là, c'est juste que... Moi, ce qui me fait chier, c'est que, tu vois, c'est Fortnite qui donne le mauvais exemple, parce que c'est le jeu le plus populaire.
C'est celui qui va servir de maître étalon qui donne cet exemple-là, tu vois. Voilà. Et en plus, on va cirer les pompes au patron de la boîte parce qu'il fait des déclarations vibrantes sur Twitter. Enfin, bref. Je vais pas m'énerver. Écoute, je pense qu'on si on continue, on va encore radoter.
Ouais.
Je te propose qu'on s'arrête là.
Bah, du coup, on peut quand même décerner le prix cette semaine.
Ah bah oui, bah évidemment, là, grand gagnant du prix du connard de la semaine.
Je dirais même l'épique connard de la semaine.
L'épique connard de la semaine.
Voilà.
Épique, voilà.
Ça sera, je pense que ça va être un nouveau trophée qu'on va remettre chaque semaine.
Bah si on pouvait s'en passer et de le donner, moi, je trouverais ça bien. Hein.
Moi aussi, mais bon, en ce moment, tu écoutes à chaque fois nos dernières news, c'est toujours des épiques connards qu'on a décernés. Hein.
Bah écoute, Electronic Arts, ils ont fait un truc bien la semaine dernière, donc je ne désespère pas.
Mais attends la rechute, hein, tu sais, comme on dit. Hein.
Bon, les gens, donc on se donne rendez-vous à la fin du mois de mai. Je pars en vacances. Je vous rappelle que je vous posterai la date pour l'enregistrement en direct, n'est-ce pas ? Rendez-vous pour le podcast 300, This is Madness. Ciao à tous.
Salut à tous et jouez bien.